Le 7-9 de France Inter. Vous êtes 3 900 000 auditeurs à écouter chaque matin la première matinale de France. À retrouver aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Il est 7h49, Léa Salamé, votre invitée ce matin est archevêque de Paris.
Bonjour monsieur, non, bonjour monseigneur, on le refait, bonjour monseigneur au petit.
Bonjour.
Vous êtes depuis le début de l'année le nouvel archevêque de Paris, le plus important diocèse de France. Vous avez été nommé par le pape François et pourtant ce n'était pas écrit. Est-ce qu'à 25 ans, vous vous êtes dit une fois, quand je serai grand, je serai archevêque ?
Non, pas du tout. Même pas prêtre, en fait. À 25 ans, j'étais en train de finir mes études de médecine et je pensais être médecin, fonder une famille, enfin quelque chose de tout à fait habituel.
Voilà, votre père était cheminot, vos deux grands-pères étaient violemment anticléricaux, vous êtes une incongruité dans votre famille. Comment ils ont réagi quand, à l'âge de 39 ans, vous leur avez dit, alors qu'ils vous croyaient médecin à Colombes, médecin généraliste, et que vous vous apprêtiez à fonder une famille, à vous marier, à avoir des enfants, quand vous leur avez dit « j'ai entendu l'appel de Dieu et je vais rentrer dans les ordres ».
Ah ben, mes grands-pères étaient morts, donc je suppose que là où ils sont, ils ont pris la nouvelle avec enthousiasme. Quant à mon père, qui traitait de calotin les gens qui allaient à la messe, il m'a dit « écoute, je te vois vivre depuis longtemps et ça ne m'étonne pas du tout, eh ben, c'est bien ». Et voilà, c'est tout, ça s'est très bien passé. Lui-même d'ailleurs a fait tout un chemin à la fin. Voilà, c'est tout.
Et puis, est-ce que ça a été un combat spirituel difficile pour vous à 39 ans de choisir entre l'appel de Dieu et le fait de fonder une famille ?
Ben, c'est pas au moment où j'ai dit oui à 39 ans, c'est plutôt avant le combat. Quand j'ai entendu l'appel, c'était un peu plus en avant. Et oui, ça a été un combat spirituel, incontestablement. Puis à un moment, comme tous les combats spirituels, où on lâche le combat, ou soit, effectivement, je me rappelle très bien, je suis tombé à genoux dans ma salle à manger, et j'ai dit ce qu'on dit toujours, que ta volonté soit faite, en sachant que ça allait m'entraîner, là où je ne savais pas, parce que je ne savais pas du tout si c'est être religieux, prêtre ou n'importe quoi, mais je savais que ma vie ne m'appartenait plus. Et ça, je peux vous dire que c'est quand même quelque chose. C'est ça le vrai combat.
C'est de,
une fois que c'est fait,
de,
après,
c'est de laisser sa vie.
Oui, c'est ça. C'est ça, d'avoir l'impression que vous l'avez plus en main, quoi.
Est-ce que le médecin que vous êtes a la même vision que le prêtre des questions de bioéthique, de fin de vie, de PMA, ou est-ce que vous avez parfois là aussi peut-être des combats spirituels ou des clivages intérieurs ?
Non, pas vraiment. Pas vraiment. Si j'ai fait de la médecine, c'est parce que je m'intéressais aux gens, si vous voulez. Oh, je suis un petit peu comme tout le monde, hein. C'est-à-dire que j'ai appris des questions d'internat, donc on croyait tout savoir quand on a les questions d'internat. Puis le premier patient que j'ai vu tout seul, dans un cabinet médical, il correspond pas aux questions d'internat. Donc j'ai compris qu'il fallait que je soigne une personne. Et donc l'intérêt pour les gens, l'intérêt pour les personnes, c'est à peu près la même chose qui est le moteur de la réflexion bioéthique.
Vous me voyez arriver. Effectivement, les états généraux de la bioéthique se sont achevés le 30 juin dernier, après plus de 200 débats, des centaines d'heures de discussion. Vous y avez activement participé. On attend le rapport qui sera remis en juin au gouvernement et puis à l'automne, le projet de loi promis par Emmanuel Macron. D'abord sur la manière dont ça s'est passé, est-ce que vous diriez que la discussion a été bonne, intéressante, dense ?
Toute discussion est bonne. Après, la manière dont ça se déroule, on ne peut pas se plaindre. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont participé. Alors bien sûr, il y a des gens qui s'investissent parce qu'ils sont très motivés. Il aurait été intéressant d'avoir des gens plus larges qui ne sont pas concernés. Mais justement, s'il y a ces débats, c'est pour essayer de concerner les gens.
Enfin, c'était ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde pouvait aller sur Internet et donner sa contribution.
Oui,
c'est comme ça que ça a été pensé.
Justement, la plupart des gens, tout le monde, comme vous dites, monsieur tout le monde, bon, pour ces questions-là, ils se disent, bon, au fond, en quoi ça m'impacte, en quoi ça m'intéresse. Et je pense que si nous sommes montés au créneau, nous, c'est pour dire qu'il y a un véritable enjeu. Il y a un enjeu de société. C'est la société de demain que nous sommes en train de construire. Nous, vous savez, nous avons toujours défendu une société basée sur la fraternité, c'est-à-dire les relations interpersonnelles fondées sur la place du plus faible. C'est-à-dire que depuis que les lois sont les lois, c'est toujours la défense du plus faible, depuis le code d'Hammurabi, pour sortir de la loi de la jungle. Donc une société de la fraternité, c'est pour ça d'ailleurs qu'au Bernardin, nous avions commencé par faire témoigner des personnes. Alors une personne autiste avec son frère, une jeune femme professionnelle en colocation avec quelqu'un qui vivait dans la rue.
Ouais. Là, vous parlez du discours d'Emmanuel Macron au Bernardin
le mois dernier. C'était pour montrer que c'était vraiment la fraternité, c'est le lien entre les personnes, pour montrer que les personnes fragiles peuvent nous apporter quelque chose et nous humaniser.
Alors, est-ce que la fraternité va jusqu'à la PMA étendue à deux femmes ? C'est la question que je vous pose. Emmanuel Macron s'y est engagé pendant sa campagne. Donc maintenant, il y a eu le débat de la bioéthique. Et théoriquement, je ne suis pas dans le Saint des Saints, mais théoriquement, il y aura un projet de loi qui va en ce sens. Est-ce que vous espérez lui faire encore changer d'avis au président de la République ?
Nous ne sommes là pas pour faire, ni pour faire les lois, ni pour faire changer d'avis. Ben, je pense que M. Macron a suffisamment de personnalité pour pas changer d'avis comme ça en fonction du vent. Mais nous avons à dire quelque chose, une parole que nous estimons juste. Alors si elle est véritablement juste, elle finira par être entendue. Si elle n'est pas juste, elle ne sera pas écoutée, tout simplement. Ben, je crois qu'il s'agit, encore une fois, de définir deux sociétés. Une société basé sur l'individualisme, où la clé c'est l'autonomie, ou une société de la fraternité basée sur les relations interpersonnelles. Et après, les lois doivent-elles s'accorder aux désirs des personnes, ou doivent-elles effectivement servir le plus faible? Et notamment ici, on ne peut pas savoir les conséquences sur un enfant qui n'aurait pas... Bon, il y en a plein d'enfants qui sont dans les familles monoparentales.
Qui n'ont pas un père et une mère.
Bien sûr.
Vous, ouvrez les yeux, oui, sur la société.
Oui, mais bien sûr, parce qu'on en accueille plein, je vous signale. Hein, et on les suit tout spécialement. Mais la question, c'est pas tellement que nous les suivons, c'est que cette situation-là, les enfants en sont victimes. Là, on crée quelque chose. On crée des enfants, on crée une situation.
Monseigneur Aupetit, vous aviez participé il y a 5 ans à la Manif pour tous. Est-ce que vous vous sentez prêt à redescendre dans la rue pour dire non à l'extension de la PMA à toutes les femmes?
Oh, je ne sais pas si je vais descendre dans la rue, ce n'est pas la question de descendre dans la rue.
C'est ce qui s'est passé il y a 5 ans.
Oui, enfin, quand je suis descendu dans la rue, c'est... Mais peu importe, je suis allé, j'assume absolument d'y être allé. Mais j'étais à côté en train de déjeuner dans une famille, et comme c'était juste à côté des Invalides, je suis descendu aux Invalides, voilà. Et puis j'ai été voir, et puis regarder ces gens qui sont
vous
assez courageux.
Vous assumez quand même d'avoir été...
Mais j'assume.
Ah oui, c'est pas juste parce que vous déjeuniez à côté.
Non, mais de fait, j'ai assumé à côté, j'ai dit aux gens, j'y vais. Donc j'y suis allé, c'est tout. Ouais. Et effectivement, on m'a pris en photo, et alors c'est pas très grave, hein. C'est-à-dire que j'assume complètement. Non, c'est pas la question. J'ai dit comment ça s'est passé, c'est tout. Mais c'est pas moi qui organise ce genre de manifestation. C'est pas notre rôle du tout. Notre rôle, c'est d'éveiller les consciences, les intelligences et d'ouvrir le cœur si c'est possible.
Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez entendu le discours d'Emmanuel Macron au Bernardin, quand il a évoqué le lien abîmé de l'Église et de l'État? Vous vous êtes dit enfin un président qui nous comprend, nous les catholiques?
Oh, je ne sais pas. En fait, il y en a d'autres qui nous ont compris, j'imagine. Et puis, c'est surtout... Il a parlé de la place de, quand même, du christianisme dans notre civilisation, qui a quand même marqué beaucoup notre civilisation. Alors il a dit, si on a refusé les racines, ce qui compte, c'est la sève.
La sève.
Enfin, c'est vrai quand même que la sève, elle vient des racines, quand même. Mais, voilà.
Comment vous qualifiez sa conception de la laïcité à Emmanuel Macron? Bah,
je pense qu'elle est juste, hein, tout simplement. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la laïcité? C'est la séparation des pouvoirs, temporels et spirituels. Le pape m'a redit l'autre jour, quand je l'ai rencontré, il n'est pas du tout bon que les personnes du clergé soient au pouvoir. D'ailleurs, c'est dans notre code de canonique, nous n'avons pas le droit de postuler à un poste de pouvoir, c'est-à-dire à la mairie ou à la députation, etc. Et je pense que c'est une grande prudence.
Votre devise épiscopale est tirée de l'évangile de Saint Jean. Vous dites « Je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance ». Ça veut dire quoi ?
Ben, d'abord, c'est une phrase du Christ, donc déjà, c'est peut-être lui qu'il faudrait interroger.
Ouais,
et puis deuxièmement,
ça va être difficile.
Si, vous pouvez l'interroger, il vous répondra de sa manière, c'est tout, mais pas directement au micro, c'est vrai. Mais ça veut dire que, au départ, j'étais pour la vie. Alors, un médecin, quand il se bat pour la vie, il sait qu'il va remporter beaucoup de combats, mais qu'à la fin, il perdra, puisque nous sommes tous mortels. Alors que le prêtre, quand il se bat pour la vie, il sait qu'il va gagner à tous les coups, puisque nous croyons à la vie éternelle.
Merci Monseigneur Aupetit.
Merci
d'avoir été avec nous ce matin à ce micro d'Inter.
Merci Léa.
Et vive la vie éternelle.
Mais oui, et à tout à l'heure
quand même.